Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'est désormais la tendance, sinon la déviance, des démocraties. Les élections ne portent plus sur les enjeux, encore moins sur des programmes, mais sur la personnalité des candidats. En Israël, la campagne électorale qui touche à sa fin a ainsi tourné à la caricature. Mardi, en effet, les Israéliens vont se prononcer sur le renouvellement ou non de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre. En fait, un référendum sur Bibi, roi d'Israël, comme le surnomme ses partisans comme ses détracteurs, qui dénonce une manœuvre sans précédent pour échapper à la justice et à de lourdes charges de corruption. Une nouvelle coalition dirigée par un ancien chef d'état-major, Benny Gantz, tente de le battre. Quels sont ses arguments, ses chances face à un tel talent politique qui n'a d'égal que le cynisme assumé de ses méthodes? La gauche, semble-t-il, est devenue un gros mot en Israël. Pourquoi une telle droitisation de la société? La situation économique contrastée de la Startup Nation va-t-elle peser sur le scrutin? Le refus du gouvernement sortant de toute solution négociée a relégué la question palestinienne à la marge et accéléré évidemment l'expansion des colonies en Cisjordanie. Jusqu'où le soutien sans faille de Donald Trump, au tempérament et aux postures similaires, conforte-t-il Netanyahou, même s'il fracture la communauté juive américaine? Comment enfin s'explique la fascination réciproque entre l'homme fort d'Israël et plusieurs dirigeants européens pourtant portés à l'antisémitisme? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Alain Dikoff. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Centre de recherche internationale de Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Laurence Nardon, vous êtes la responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Par téléphone, Denis Charby. Bonjour Denis, vous êtes maître de conférence au département de sociologie à l'Université ouverte d'Israël. Par téléphone depuis Jérusalem, bonjour Eva Ilouz, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Et aussi par téléphone, Jacques Bendelak, économiste, chercheur en sciences sociales, enseignant au collège académique de Netanya. Denis Charbit, vous êtes arrivé hier soir d'Israël. Vous êtes ce matin, je crois, à Orléans pour un festival. Racontez-nous, quelle est l'ambiance donc à trois jours de ces élections?
Je dirais que la campagne électorale est passée, je dirais, au-dessus des Israéliens. Elle n'a que très peu intéressé l'opinion publique, les citoyens lambda. Ils ont vu ça un petit peu médusé. C'est vrai que le niveau n'a jamais été aussi bas. De quoi a-t-on parlé? On a parlé de la santé mentale de Benny Gantz. On a parlé de son téléphone portable qui aurait été piraté par les Iraniens. On a parlé de rien, très peu des transports publics, très peu de la santé publique. Bien sûr, Netanyahou a vanté son bilan diplomatique, ses relations privilégiées avec Trump, avec Poutine, avec Bolsonaro. Il y a eu effectivement des événements qui ont en quelque sorte interrompu ou saisi la campagne électorale, notamment la reconnaissance de l'annexion du Golan par Israël par Donald Trump. Il y a eu la dépouille mortelle d'un soldat israélien mort pendant la première guerre du Liban en 1982 qui a été envoyé grâce à une intervention de l'armée russe, voilà. Alors je dirais par rapport à la droitisation, alors je dirais pas que c'est une droitisation de la société israélienne, mais c'est une droitisation de l'offre politique. C'est-à-dire...
Alors précisément, Denis Charbit, expliquez-nous les rapports de force politique. Donc on voit, vous nous dites, une campagne qui finalement n'a pas passionné les foules, qui a été néanmoins d'une virulence avec des méthodes médiatiques notamment, et surtout de la part de Netanyahou, qui est un maître en la matière, particulièrement violente. Face à la tactique habituelle de Netanyahou, quelle a été la posture de cet homme que l'on découvre, donc cet ancien chef d'état-major, Benny Gantz?
Alors, il a joué, lui, au contraire, le rassemblement, un autre ton, un autre style. Alors certes, en milieu de campagne, on lui a plutôt recommandé d'être très fort et d'être capable de parler aussi durement de Netanyahou que Netanyahou parlait de lui, donc en mettant en avant, bien sûr, les affaires. C'est vrai que le paradoxe dans la situation électorale de Benny Gantz, c'est que d'un côté, il doit rassembler derrière lui le centre et la gauche, et il y arrive, je dirais d'ailleurs, pas si mal, puisqu'on lui le donne en tête dans les sondages. Mais en revanche, comme pour gagner, il faut aller puiser des voix du côté de la droite, donc c'est vrai que son discours politique a été plutôt centriste de droite, voire une sorte de droite plus responsable que la tentative par Netanyahou, lui, de lui coller à tout prix l'image d'un homme de gauche, d'un gauchiste même, et comme que vous avez effectivement bien résumé en disant que c'était devenu, dans le discours politique de la droite israélienne, un mot grossier, un gros mot, n'est-ce pas ?
Qu'il en est du vote de minorité arabe et druze ? Parce que ça représente quand même, à peu près 20% de la population, des Arabes israéliens.
Tout à fait. Alors c'est 20% de la population, mais n'oublions pas que c'est une population très jeune, donc tous n'ont pas encore le droit de voter. Et c'est vrai qu'il y a une démobilisation relative. La dernière fois, tous les partis, les quatre listes arabes, avaient fusionné en une seule liste, et elle était d'ailleurs arrivée en troisième position, c'était le troisième parti de la Knesset. Là, ces quatre listes ont décidé de se diviser en deux listes, et visiblement, ils parviendront difficilement à refaire leur score de 13 députés, donc on situe ça autour de 10 ou 11, mais ce que je veux dire, c'est ça qui me paraît important, malgré tout, malgré ce qu'on entend, c'est que le rapport de force entre la droite, le bloc de droite, le bloc des partis de droite et religieux, et le bloc des partis de gauche, du centre et des partis arabes, eh bien, se modifie pas ou à peine. C'est-à-dire qu'on, alors bien sûr, il y a toujours un léger avantage à la droite, donc autour de une fourchette de 62 à 67 députés, donc sur 120, c'est effectivement une majorité absolue, mais on ne voit pas, de la même manière que la gauche et le centre ont du mal à puiser des voix à droite, on ne voit pas non plus la droite améliorer son score. Alors je me fie bien sûr ici au sondage, et c'est ce qui me permet d'expliquer qu'on a, une droitisation de l'offre, oui. Il y a beaucoup plus de partis de droite et très virulents et qui effectivement ont une rhétorique aujourd'hui beaucoup plus violente et virulente, notamment contre la Cour suprême, hein, comme quoi le sujet c'est pas simplement un État palestinien ou pas de négociation avec l'autorité palestinienne, alors que en matière de demande, je vois pas les électeurs israéliens être aussi volatiles, mais bien sûr, effectivement, on ne voit pas non plus une percée, en tout cas si on se fie au sondage.
Alain Dikoff, il faut rappeler, bien évidemment, que le Premier ministre sortant a lui-même déclenché des élections anticipées, et ce, pour échapper à la justice, au procureur général, qui était pourtant l'un de ses proches, au chef de la police, qu'il avait lui-même nommé, et qui ont déterré plusieurs affaires de corruption, manipulation de la presse, une histoire de sous-marins allemands, acheté en dépit du bon sens avec un cousin. Enfin, il y a tout un fatras d'histoires qui concerne aussi, je crois, sa femme et son fils. Jusqu'à quel point est-ce que cette manœuvre, quand même évidente, a choqué ou non les Israéliens?
D'abord, je pense que le fait que ces élections étaient appelées de façon anticipée n'est pas uniquement dû à la volonté de trouver éventuellement une protection pour une inculpation future pour les différentes affaires que vous avez évoquées. Il y avait aussi un réel problème au sein de sa coalition gouvernementale qui lui menait la vie de plus en plus dure, et il n'est pas certain qu'il aurait pu tenir jusqu'à la fin du mois de novembre 2019, terme initial de la législature. Cela dit, ce qui est assez clair, c'est que on aurait pu penser que après le déclenchement de ces poursuites, ça a eu un impact sur la campagne électorale et que ça modifie un petit peu les lignes. Ce qu'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est que ça n'a rien modifié. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, ça montre que ces considérations de nature judiciaire, elles vont peut-être jouer, évidemment, pour quelques électeurs, mais de façon si marginale que ça change rien au rapport de force qui, en effet, si on inclut l'ensemble des formations de droite, leur reste assez clairement favorable. Je voudrais peut-être rebondir sur une chose que Denis a dit, en la nuançant. C'est vrai qu'il y a une droitisation de l'offre politique, mais s'il y a droitisation de l'offre politique, c'est bien parce qu'il y a aussi des changements internes à la société israélienne qui rendent une option clairement de gauche, je dirais, inaudible.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Je vais y venir. Parce que je pense que il y a des changements dans la société israélienne, comme toutes les sociétés, elle évolue au fil du temps. Et quand on regarde très clairement, et c'était déjà le cas aux élections de 2015, les points de force sur lesquels le Likoud et de façon plus large la droite s'appuie, ils sont clairement identifiés et ceux-ci ne bougent pas. C'est d'une part les milieux populaires séfarades qui ont appuyé le Likoud depuis 77. Et de génération en génération, ce bloc ne bouge très très peu et reste fidèle au Likoud et à la droite. Ensuite, les immigrants juifs qui sont arrivés à compter des années 90, ils ont voté en 92, c'est vrai, un peu par dépit.
Plutôt des Russes, là.
Oui, des Russes, enfin globalement, appelons les Russes, même si certains d'entre eux ont pu venir d'Asie centrale, mais enfin de l'ex-Union soviétique. Alors en 92, certains ont pu voter pour le Parti travailliste à l'époque, parce qu'ils étaient mécontents un peu de la façon dont ils étaient intégrés. Mais depuis, ils votent à droite très clairement parce qu'ils ne sont pas religieux, mais ils sont clairement nationalistes. Et enfin, le troisième groupe, c'est les sionistes religieux. Les sionistes religieux, depuis maintenant 40 ans, ont basculé dans leur immense majorité à droite. Ils restent fidèles à la droite et ils ne bougent pas. Et ça c'est quand même indicatif. Et la preuve même, si vous voulez, que cette idée, finalement, si vous voulez, de le débat, il est donné par la droite. Un signe qui ne trompe pas, c'est que regardez comment s'appelle la gauche ou les formations qui les rassemblent. Aux dernières élections, on parlait, le Parti travailliste avait fait une alliance avec d'autres groupes, il s'appelait le camp sioniste. On ne voyait pas le Parti travailliste. Aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, la coalition, c'est bleu et blanc. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les couleurs du drapeau israélien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui reste elle-même de la gauche et du centre-gauche est aussi dans une logique où ils veulent montrer qu'ils sont patriotes. Ce qui montre bien que, en effet, la direction, et le débat, je dirais, il est totalement régenté par des thèmes que la droite a imposé et que la gauche elle-même, finalement, est obligée de suivre.
Cette liste bleu-blanc, c'est une liste très masculine, très galonnée. On voit quatre anciens généraux à l'air martial, sobres.
Ça aussi,
etc.
Ça trompe pas. C'est que ils veulent jouer sur cette carte, sur les quatre premiers, en effet, vous avez trois anciens chefs d'état-major.
Alors, il faut rappeler qu'il y a deux anciens chefs d'état-major qui ont été premiers ministres, quand même, dans l'histoire d'Israël, Yitzhak Rabin et Barak, je crois. Cette droitisation de l'offre politique, et comme vous venez de l'expliquer aussi de la société, elle est quand même poussée jusqu'à l'extrême, puisque Netanyahou, quand il a senti quand même que Benny Gantz, le leader de cette nouvelle coalition, avait un peu de vent dans les voiles, il n'a pas hésité à s'allier à un parti qui, jusque-là, était considéré quand même comme indigne de toute forme d'alliance. Force juive, donc ce sont les disciples de Meir Kahan, ce rabbin qui avait été assassiné à New York, je crois, dans les années 80. Des suprémacistes juifs qui pourraient, en fait, jouer un rôle clé dans une coalition. Il faut quand même toujours rappeler que le scrutin en Israël, c'est la proportionnelle. Hein. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des jeux de coalition difficiles.
Oui, ce qui compte en Israël, c'est bien sûr le résultat des élections, le premier tour, mais ce qui compte beaucoup, c'est le deuxième tour, c'est-à-dire la négociation entre les partis pour constituer la coalition. Alors là, vous faisiez référence, en effet, à ce groupe qui s'appelle la Force juive et qui est en effet un groupe clairement raciste, hein, lié à, enfin, qui se réclame de l'idéologie de l'ancien rabbin Meir Kahana et qui est uni à d'autres forces de droite, d'extrême droite même, au sein d'une liste qui s'appelle la droite unifiée. Alors bon, certes, ils vont certainement pas avoir beaucoup plus de 6 sièges, mais étant donné le système israélien, ça peut être une force d'appoint,
oui, enfin,
absolument indispensable.
Leur campagne à eux est quand même insensée.
Ah oui, non, mais enfin, c'est clair. Non, mais il y a aucun
doute.
Leurs
affiches, donc ils précipitent un Palestinien dans une poubelle, ils Il célèbre Barouche, là, celui qui avait assassiné...
Baruch Goldstein, voilà. Oui, qui avait assassiné ça, c'est quand même 29 musulmans.
Assez saisissant. Oui, Iva Ilouz, merci mille fois d'être avec nous par téléphone de Jérusalem. Je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'EHESS. Vous êtes sociologue, une grande figure de la vie intellectuelle israélienne. Jusqu'à quel point, selon vous, la société elle-même que vous étudiez s'est droitisée au fil des années?
Alors oui, je crois que je ne vais pas être d'accord avec mon ami et collègue Denis Sherbit. Il y a deux jours, le grand journaliste du quotidien Haaretz, Rémi Chalev, a publié ou a commenté une recherche selon laquelle il y a quelques décennies, une quantité égale d'électeurs s'identifiaient avec le centre, la gauche et la droite, à peu près égale. Et, dit-il, la même recherche qui a été faite récemment montre que seulement 10% des adultes en âge de voter se disent s'identifier à la gauche. Donc, pour moi, c'est le signal très clair que la droitisation ne porte pas seulement sur l'offre politique, mais sur, si vous voulez, l'idéologie et sur les façons de concevoir la politique.
Alors, ce que vient de nous expliquer Alain Dikoff, tout à fait. Donc,
vous... Oui. Alors, je n'étais pas toujours en ligne, donc j'ai pas toujours entendu, hélas, ce qu'Alain Dikoff a dit. Mais je pense que cette droitisation, elle est là pour rester pendant longtemps. Il y a plusieurs formes de droitisation, il ne faut pas les confondre. Il y a une droitisation, je dirais, qui est structurale et qui est due au fait qu'une bonne partie de la population, les juifs mizrahim d'origine séfarade, donc, ne voteront plus pour la gauche. C'est une césure qui s'est produite en 1977 avec Begin. Cette population a été objectivement discriminée par le Parti travailliste de gauche qui détenait la plupart des institutions du pays. Et je dirais qu'il y a une sorte de ressentiment presque héréditaire qui a été transmis de génération en génération. Et cette population a un vote que je qualifierais de tribal, pas dans le sens négatif du mot tribal, mais tribal dans le sens où pour cette population votera Likoud, quel que soit le comportement presque du chef du Likoud. Elle votera Likoud, elle ne peut pas voter à gauche. C'est un peu comme ça. Donc ça, je dirais que c'est une droitisation presque structurale. Ensuite, je dirais qu'il y a une droitisation qui est liée à la structure politique israélienne et qui fait que on a aujourd'hui 5 partis religieux, c'est beaucoup. Alors, avec des nuances différentes, il y a des religieux ultra-orthodoxes, il y a des religieux nationalistes, il y a des religieux messianistes, il y a des religieux racistes, mais 5 partis religieux, c'est quand même beaucoup, et c'est 5 partis religieux qui s'étaient contentés, disons, jusque dans les années 2000, de faire pression sur les budgets et d'augmenter leur budget. Ces religieux, désormais, veulent changer les mœurs des laïcs.
Donc, mais là, Eva, je vous interromps, mais on a vu aussi que le Premier ministre, donc Netanyahou, a véritablement joué la carte en accordant au grand rabbinat, en renforçant le monopole du grand rabbinat sur toutes les étapes de la vie des Israéliens, le mariage, le divorce, les funérailles, la conversion, il n'y a toujours pas de mariage civil. Et puis il y a eu cette loi de juillet 2018 qui définit Israël comme l'État juif. Donc Netanyahou a véritablement joué cette carte-là délibérément.
Alors il faut être précis là. L'accord avec les religieux dont vous parlez là, l'accord du status quo, date de 1947. C'est Ben Gurion qui avait passé un accord avec la mouvance ultra-orthodoxe. Donc, il s'agit de quelque chose qui fait partie intégrale de l'État d'Israël. Israël n'a jamais été un État laïque.
D'accord. Néanmoins, Netanyahou a renforcé le pouvoir.
Ça a toujours été un État religieux. D'accord. Mais où les religieux étaient, je dirais, soumis au pouvoir et à la férule des laïcs. En 1996, Netanyahou, quand il était candidat, dans un moment célèbre, a murmuré à l'oreille d'un grand rabbin séfarade que la gauche avait oublié d'être juive. Et je dirais que ça hante la politique israélienne depuis. Ce que Netanyahou a très bien réussi à faire, c'est à recadrer, d'ailleurs il l'a fait, c'était Begin en fait qui avait commencé, c'était Menachem Begin, il a recadré la politique israélienne et les élections et les électorats différents en fonction de leur identité juive. Et d'ailleurs, la preuve que ça a marché, c'est que Gabay, qui est donc le chef du parti travailliste, donc on parle de la gauche quand même, lui-même l'année dernière a fait référence au fait que la gauche n'était pas suffisamment juive. Il a été rondement critiqué. Mmh. Il n'en reste pas moins que c'est ainsi que Netanyahou a redessiné l'identité du Likoud, qui était une identité laïque et libérale, et il l'a redessiné comme le parti des juifs pour les juifs, voire en utilisant même une rhétorique raciste, comme ça a été le cas aux dernières élections, lorsqu'il a appelé son électorat à aller voter parce que, disait-il, les Arabes aller voter en masse.
Oui, voilà, en utilisant la menace, en quelque sorte, d'un vote arabe qui déstabiliserait la vie politique en Israël. Eva Ilouche, si vous le voulez bien, restez en ligne encore quelques minutes, s'il vous plaît, parce que je voudrais retourner vers Denis Charbit et évoquer la manière, quand même spectaculaire, dont Benjamin Netanyahou a fait entrer en scène ses meilleurs amis sur la scène internationale, en l'occurrence. D'abord, Vladimir Poutine. Netanyahou était à Moscou jeudi dernier. Et là, il y a eu une cérémonie tout à fait sidérante où Vladimir Poutine, qu'il appelle son meilleur ami, lui a rendu, si j'ai bien compris, la dépouille d'un militaire israélien mort au Liban il y a 25 ans.
Il y a plus encore, c'était en 1982. Alors, c'est vrai, vous savez, il y a un principe dans les démocraties, c'est que des pays amis n'interviennent pas dans le choix des électeurs du pays qui s'apprête à voter. Et donc, en général, je dirais que, jusqu'aux dernières élections, les interventions des pays étrangers, les États-Unis, les pays de l'Union européenne, étaient relativement discrète. Je ne dis pas qu'il n'y avait absolument aucun message qui était comme ça dispensé, mais en tout cas, voilà, avec une sobriété, parce que au nom de ce principe de la non-intervention dans les affaires intérieures d'un pays. Et là, on a vu Netanyahou, qui avait déjà commencé lors des dernières élections, lorsqu'il s'est rendu lui-même aux États-Unis pour parler devant le Congrès et le Sénat américain réunis pour discréditer l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais là, c'est même le contraire qui s'est passé. C'est pas lui qui a eu à se déplacer, ce sont les autres qui se sont en quelque sorte déplacés dans la campagne électorale israélienne. Alors, on a vu d'abord Bolsonaro venir en visite officielle.
Donc le président brésilien.
On a vu donc Trump faire cette déclaration sensationnelle d'une reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan par Israël, ce qui a créé quelque chose qui, présent jusque-là, on pouvait estimer que dans le cadre d'une négociation, il fallait comprendre certains faits établis depuis 1967, mais jamais une reconnaissance à cet ordre-là. Il y avait déjà eu le transfert de l'ambassade, mais c'était déjà il y a quelques années. Là, je parle en pleine campagne électorale, cette déclaration de Trump sur le Golan. Et pour terminer, donc effectivement, cette visite, alors le corps de ce soldat donc qui arrive en Israël grâce à une intervention de l'armée russe dans un cimetière situé près d'un camp palestinien en Syrie, et Netanyahou qui se rend à Moscou pour donner une sorte d'aura à cet événement-là. Alors c'est de bonne guerre électorale, si ce n'est que là on voit très clairement que Netanyahou a beaucoup joué dans cette campagne électorale sur le fait que, contrairement à l'image traditionnelle de le monde entier est contre nous, là, Netanyahou se prévalait de ses amitiés très très fortes, très chaleureuses avec les grands de ce monde. Et j'ajouterais également, toujours dans cette optique de droitisation de l'offre politique, ce qui, moi, me paraît là aussi d'ailleurs inquiétant à cet égard, c'est que le thème de la droite, cette fois-ci, n'a pas été seulement le refus du négociation avec l'autorité palestinienne, mais également l'adoption des thèmes que l'on retrouve dans ces démocraties dites illibérales, notamment le discours contre les élites, contre la presse. Je donnerai ici un exemple. Il y a une affiche du Likoud dans sa campagne électorale où l'on montrait sept portraits de journalistes très très hostiles à Netanyahou, comme si on pouvait se permettre en démocratie de montrer du doigt des journalistes qui font leur travail et des journalistes qui peuvent être également
remarqué en France. En France, on les insulte volontiers, mais c'est vrai qu'on a on ne les a pas encore vus en affiche dans une campagne électorale. Laurence Nardon, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales. Revenons sur ces liens tout à fait étroits entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Parce que ce qui frappe d'abord, c'est une extraordinaire proximité dans le style et dans la manière de faire de la politique et de taper, bien évidemment, sur les élites, bien qu'ils en fassent partie l'un et l'autre à leur façon.
Oui, tout à fait. Mais de toute manière, au-delà de ces deux hommes, on voit bien que cette proximité et ce style politique et ce programme populiste qu'ils partagent est aujourd'hui l'apanage de bien des hommes forts dans beaucoup de pays du monde. Donc, ça, c'est quelque chose de plus large. Mais en ce qui concerne Trump et sa relation avec Benjamin Netanyahou, il faut voir que, historiquement aux États-Unis, depuis Suez, le soutien à Israël est un passage obligé pour tous les politiques. Et Trump n'était pas particulièrement proche d'Israël avant d'entrer en politique en 2015 véritablement. Il l'était beaucoup moins, notamment que Hillary Clinton, qui elle était absolument irréprochable sur sa proximité avec Israël. Elle venait quasiment tous les ans au Saban Forum, qui est une journée annuelle organisée à la Brookings où on célèbre l'amitié entre les deux pays. Et lui, du coup, Trump a dû se rattraper, faire des voyages, utiliser pas mal l'image de son gendre, Jared Kushner.
Alors le gendre, c'est tout à fait important, parce que la famille Kushner a une fondation en Israël, finance d'ailleurs certaines colonies, certaines implantations en Cisjordanie, intime de Benjamin Netanyahou, qui, je crois, allait dormir chez eux quand Netanyahou venait à New York. Donc, il y a une vraie proximité, je dirais, familiale.
Oui, absolument. Et Trump, donc, a dû certainement se servir de ce canal pour se rapprocher du Premier ministre israélien. Effectivement, il n'a eu aucun problème à se rapprocher de lui, puisqu'ils ont les mêmes opinions politiques. Ce sont quand même deux leaders d'extrême droite, je crois qu'on peut le dire.
Deux leaders d'extrême droite et qui ont en plus le même ennemi, la même obsession, c'est-à-dire l'Iran.
Oui, évidemment, du côté Trump, c'est tout à fait clair.
Et du côté Netanyahou aussi, bien évidemment.
Oui, mais ils sont soutenus par un certain nombre de pays arabes aujourd'hui dans cette démarche.
C'est-à-dire qu'on a vu aussi, effectivement, on a vu Benjamin Netanyahou, par exemple, en visite à Oman, le sultanat d'Oman, et on a beaucoup glosé sur un rapprochement de fait, officieux bien sûr, mais entre Jérusalem et Riyad. On a même murmuré à un moment donné qu'il y aurait eu une rencontre entre Netanyahou et le prince héritier d'Arabie Saoudite, mais ça n'a jamais été avéré. Mais là aussi, on voit bien que l'obsession iranienne est commune à tous ces dirigeants.
Oui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le conflit israélo-palestinien a disparu, en tout cas des grandes déclarations américaines. Ça, c'est le cas depuis bien longtemps, mais même dans la région. Et aujourd'hui, l'ennemi fédérateur, c'est l'Iran. Et donc, c'est ce qui rapproche également Trump de Netanyahou et des autres pays arabes sunnites de la région.
Quand Donald Trump, au mépris du droit international, reconnaît donc officiellement l'annexion du Golan par Israël, il faut quand même rappeler qu'Israël occupe le Golan depuis 1981, qu'il y a...
67.
Depuis 67, mais l'occupation réelle, je crois que...
L'annexion, c'est 81.
Voilà. Et qu'il y a, je crois, 17 000 Israéliens qui vivent sur le plateau, 18 000 Druzes. Est-ce que cette reconnaissance américaine peut pousser ou encourager Netanyahou à avoir la même démarche vis-à-vis des territoires occupés, notamment de cette fameuse zone C contrôlée par les Israéliens en Cisjordanie, parce que Netanyahou a eu cette phrase, en gros, on y est, on y reste, donc c'est à nous.
Oui, et on peut se demander vraiment ce qui est passé dans la tête de Trump. On se pose la question sur beaucoup de choses à son sujet dans cette déclaration, parce que on voit bien qu'il a voulu aider Netanyahou, que le Premier ministre israélien va pouvoir s'en servir pour justifier des annexions en Cisjordanie, comme vous le disiez. Mais c'est beaucoup plus grave en réalité, parce que ça va pouvoir servir à la Russie pour justifier son annexion de la Crimée, à la Chine pour justifier ses volontés d'annexion des îlots en mer de Chine du Sud. Donc ça va beaucoup plus loin que le cas israélien. Et en termes de politique intérieure américaine maintenant, il faut vraiment se poser la question de l'utilité de cette déclaration de Trump, puisque on voit bien, on sait que la communauté juive aux États-Unis est beaucoup plus démocrate que républicaine et ne suit pas vraiment, même sur l'ambassade, les avancées de l'administration Trump.
Mais restons un moment, Alain Dickoff, sur cette question palestinienne qui a disparu du débat politique en Israël. Elle a aussi, il faut bien dire, largement disparu des préoccupations des chancelleries. Comme on dit, depuis les accords d'Oslo, donc ça remonte à 93, donc tout cet espoir s'est fracassé. Le nombre de colons israéliens a quadruplé, je crois, depuis cette époque. Jusqu'à quel point est-ce que dans la campagne électorale, cette disparition de la question palestinienne a fait place à l'évocation du danger arabe? En termes électoraux plutôt, c'est-à-dire toujours cette idée, oh là là, faites attention, les Arabes vont aller voter et ça va déstabiliser notre système politique.
Oui, mais je dirais évidemment, les choses sont assez différentes, parce que quand Netanyahou, et il l'avait déjà fait en effet lors des dernières élections, pointe un peu du doigt la minorité arabe en Israël, c'est vraiment dans une logique qui lui est propre, mais qu'on trouve en effet chez d'autres dirigeants un peu de la même trempe, de surjouer les clivages et de montrer que lui il a sa majorité uniquement grâce au vote des juifs, qu'il a pas besoin des citoyens arabes pour avoir une majorité, ce qui est une façon évidemment de dire que si son adversaire voulait constituer une coalition, il serait obligé de s'appuyer d'une façon ou d'une autre sur les partis arabes, au moins comme soutien extérieur. Donc, mais ça c'est une chose. Je dirais que si on replace le curseur sur la question de la question palestinienne aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'elle a assez largement disparu des écrans radars. Ce qui me frappe, je dirais, la concernant, c'est et là on voit qu'on est vraiment plus du tout dans le paradigme des années 90. Ça me paraît absolument clair. Ce qui me frappe, c'est d'une part, vous avez ouvertement maintenant des partis en Israël qui réclament l'annexion. Très clair. Alors ça peut être l'annexion totale ou alors l'annexion de 60%, comme le cas du parti Foyer Juif. 60% de la Cisjordanie, les 40% restant plus ou moins gérés, comme c'est le cas aujourd'hui, par l'autorité palestinienne, donc essentiellement les grandes villes et leurs alentours. Ça, c'est quand même assez nouveau. Je dirais, il y a 20 ans, il y avait très très peu de formations, même très extrémistes, qui réclamaient directement cela. Donc ça montre quand même que le curseur a bougé. De l'autre côté, vous regardez le parti, le programme de la coalition bleu et blanc, donc je dirais le centre gauche, hein, autour de Gantz, il ne parle plus d'État palestinien. Il ne parle plus d'État palestinien. Ce qu'il propose, et ça montre aussi que les choses ont changé, c'est finalement de faire revivre assez largement ce qu'on appelait le plan Alon. Alon, c'était un ministre israélien de la fin des années 1960. Hein, bon, ça remonte vraiment à loin. Qui, en gros, avait dit qu'il fallait trouver un accord à l'époque avec la Jordanie et que cet accord devait inclure le contrôle permanent, par exemple, de la vallée du Jourdain. Vous regardez le programme de la coalition bleu et blanc, ça figure là-dedans. Il faut annexer les blocs de colonies en Cisjordanie. Il faut évidemment ne pas revenir sur l'unification de Jérusalem, et il faut un contrôle permanent le long de la vallée du Jourdain. Donc il y a une incroyable régression. En fait, c'est ça la réalité. Il y a une régression incroyable
dans les ordres. Et un alignement. Et un alignement de fait.
C'est bien pour ça que je dis que finalement, ce qui reste de la gauche assez largement court après finalement un agenda qui est désormais fixé par la droite.
Et on voit que sur l'Iran, donc sur les questions qui sont vraiment d'actualité, c'est-à-dire l'Iran, comme sur les territoires occupés, la coalition bleu-blanc reste floue.
Comme Gantz était souvent, évidemment, de façon totalement
exagérée. Il était chef de l'armée lors de la guerre de Gaza en 2014.
C'est la raison pour laquelle l'outrecuidance de Netanyahou est d'autant plus forte, en l'accusant, en le mettant quasiment en accusation, en disant, oui, bon, vous n'avez pas fait assez pour la sécurité, ouais, etc. Ce qui est quand même assez incroyable de la part du Premier ministre. Mais en effet, il a quand même un culot à nul autre pareil. Mais si on revient à Gantz, et si on revient aussi à leur programme, eh bien, sur la question du Golan que vous avez évoqué, ils disent très clairement que le Golan fait partie de façon inséparable d'Israël, donc il n'y a pas de différence non plus sur ce plan-là. Donc vous voyez, dans ce jeu-là, il n'y a pas vraiment d'alternative crédible, il faut bien le dire, il n'y a pas d'alternative crédible.
Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et le moment est venu de nous intéresser justement aux personnalités dans cette campagne qui, encore une fois, tourne vraiment très très largement autour de Benjamin Netanyahou lui-même et aussi autour de celui qui a surgi et qui est à la tête de cette nouvelle coalition et qui s'appelle aussi Benny.
Oui, ben donc en dehors de leur prénom, en fait, tout les sépare. Commençons par Benjamin Netanyahou, celui que l'on surnomme Bibi, à 69 ans. C'est une star, sans doute sulfureuse, mais une star, et comme le reconnaît le journal Haaretz, peu suspect de complaisance avec lui, bien le jour où Israël aura perdu Bibi, il y aura sûrement des moments où il regrettera de ne plus avoir un leader de stature internationale. Car Netanyahou est une bête de scène politique, 4 fois Premier ministre, donc en quête d'un 5e mandat. Ce fils d'un intellectuel historien et le premier chef de gouvernement est né en Israël après la création de l'État hébreu en 1948. Et s'il sort victorieux de la prochaines élections, eh bien, il battrait le record de longévité au poste de Premier ministre qui est détenu jusqu'à présent par la figure historique David Ben-Gourion. Mais la vie de l'actuel dirigeant du Likoud, marié 3 fois, père de 3 enfants, ne se résume pas à Israël. Jeune, il a vécu de très nombreuses années donc aux États-Unis, et cette étape américaine a été fondatrice, estime le magazine britannique Mosaïque. Il a cultivé les élites de la politique et de la communauté juive. Il a appris à maîtriser les médias, et tout cela préfigurait déjà son futur style politique, raconte cette revue, un style que résume avec une bonne formule Hanschel Pfeffer, journaliste pour Haaretz et Vie économiste, et auteur d'une biographie intitulée Bibi. Netanyahou, c'est une politique de relations publiques basée sur des discours plutôt que de l'action. Et le journaliste pronostiquait, quand il quittera son poste, son héritage ne sera pas une nation plus sûre, mais une société israélienne profondément fracturée et vivant derrière des murs. Mais à ceux qui ont déjà enterré politiquement Bibi, eh bien le site d'information Bloomberg prévient, il ne faut pas oublier que ce qui a permis à Netanyahou de rester aussi haut pendant tant d'années, c'est cette dextérité politique incomparable et sa réputation solide et tenace de défenseur de la sécurité d'Israël.
La sécurité, c'est aussi évidemment le point fort de son adversaire, l'ancien général Benny Gantz.
Oui, d'ailleurs, effectivement, pour une bonne raison, parce que ce fils d'une rescapée de la Shoah a gravi tous les échelons de l'armée jusqu'à devenir donc ce chef d'état-major pendant 4 ans, de 2011 à 2015. Il a derrière lui presque 40 ans de carrière dans l'armée, mais seulement 2 mois en politique. Pourtant, estime Bloomberg, ce père de 4 enfants, ancien parachutiste, constitue, je cite, la plus grande menace pour Netanyahou depuis 10 ans, avec son parti bleu et blanc, les couleurs d'Israël. Le très grand Benny Gantz, très grand parce qu'il mesure 1m95, a fait alliance donc avec des anciens chefs d'état-major, ainsi qu'avec le centriste Yair Lapid, et il promet de donner la priorité au logement et à la santé publique. Ce n'est pas la première fois qu'un général israélien arrive en politique en promettant d'emprunter une meilleure voie, commente le site Bloomberg. Mais au moment où Netanyahou est aussi vulnérable, l'image de Gantz conforte l'idée qu'il est une alternative crédible. sans doute, mais le chemin jusqu'au fauteuil de Premier ministre est encore long et on ne compte plus les pots de banane que se lancent les candidats. Alors, la dernière en date, c'est la révélation par la télévision d'un enregistrement dans lequel Benny Gantz explique ses doutes à l'égard des compagnons, de ses propres compagnons, des compagnons de sa propre liste. Quant à son programme, détaille Bloomberg, il est incomplet, ses positions manquent de concret. Mais à 59 ans, Benny Gantz, lui, est convaincu que les Israéliens veulent tourner la page Netanyahou, son aîné de 10 ans, et il leur promet un gouvernement, je cite, « sans maître, ni serviteur, sans cadeau démesuré, ni courtisan ».
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Retournons à Jérusalem pour vous joindre, Jacques Bendelak. Bonjour, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes économiste, vous enseignez au collège académique de Netanya. Dans quel état est l'économie israélienne entre des chiffres macro qui sont resplendissants et néanmoins une crise sociale aiguë?
Oui, bonjour. Effectivement, les chiffres de l'économie israélienne sont très bons. J'allais même dire qu'ils n'ont jamais été aussi bons. Hein, avec une bonne croissance, un chômage très bas, une inflation très faible. Donc tout ça, a priori, est très bon. Or, effectivement, la situation est moins bonne qu'il n'y paraît, parce que derrière ces bons chiffres, il se trouve que toute la population n'a pas profité de la même façon des bons résultats. Hein. Et donc cette croissance très libérale, hein, puisque c'est un modèle ultra-libéral qui est adopté en Israël depuis une vingtaine d'années.
Depuis que Netanyahou a été aux finances d'ailleurs.
Absolument. Depuis 2003, lorsque Netanyahou était ministre des Finances, hein, il a mis en place un vaste programme de libéralisation de l'économie, privatisation, baisse des impôts, baisse des dépenses publiques. Et tout ça a conduit à une croissance peut-être forte, mais a également laissé derrière une masse d'Israéliens qui sont tombés dans la pauvreté. Parce que l'État-providence a disparu, hein, le fameux État-providence du socialisme des premières années, bien tout ça, ça n'existe presque plus. Le filet de protection sociale c'est largement aminci. Et aujourd'hui, eh bien, si on prend les chiffres de l'OCDE, le taux de pauvreté en Israël est un des plus forts des pays occidentaux. Les écarts sociaux sont très forts, il y a de très grandes disparités sociales.
Et est-ce que c'est un enjeu dans le scrutin de mardi prochain?
Alors, paradoxalement, vous savez, l'économie et le social, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus, ils ne font plus partie des enjeux électoraux. Hein. On en parle très peu. Cette fois-ci, on en a parlé encore moins, j'allais presque dire, parce que cette élection, elle est très peu idéologique. Hein. Elle est plus un combat de personnes. Et les partis politiques estiment que l'électeur est indifférent aux questions socio-économiques. Hein. Et donc, les programmes n'ont pas tourné sur l'économie, ont tourné sur Netanyahou. On a recruté des généraux, mais on n'a pas recruté des économistes. Hein. Ça aussi, c'est un petit peu symbolique cette année. Et donc, les sujets économiques n'ont pas fait partie du tout du débat public de la campagne électorale de cette élection.
Reste l'image rutilante d'une start-up nation à la pointe dans tout ce qui est high-tech, avec une extraordinaire fertilité israélienne en matière de recherche, de développement et de vente très rapide d'ailleurs de technologies à l'étranger, à l'international.
Oui, alors la technologie, c'est aussi le symbole de la réussite de l'économie israélienne, mais c'est aussi le symbole des limites du modèle libéral. Hein, parce que si au début la technologie avait été soutenue par l'État, aujourd'hui la grande majorité des investissements dans la technologie sont des investissements privés. Et l'État n'investit presque plus. Et aujourd'hui, la technologie en 2019, elle n'est plus la locomotive de l'économie israélienne, puisqu'elle ne représente que 10% de l'économie. Hein. Ça veut dire que 90% de l'économie, c'est de l'économie traditionnelle. Et cela, c'est du fait que l'État s'est retiré aussi de la technologie. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, c'est un secteur très vivant, très, très, très actif. mais qui ne représente plus la majorité de l'économie, un secteur qui recherche la rentabilité. Vous savez, on crée beaucoup, mais on revend très vite les start-up pour faire autre chose. Hein. L'Israélien aime bien passer d'une chose à l'autre. Hein. Et donc, la limite de cette technologie aujourd'hui, c'est que on manque d'argent et on manque de main-d'œuvre. Parce que l'État n'a pas investi dans la formation des ingénieurs, dans la formation professionnelle. On a une fuite de cerveaux important, et donc aujourd'hui, cette technologie commence à s'essouffler, et elle va être aussi un enjeu pour la décennie à venir, pour voir comment est-ce qu'on peut relancer cette technologie, justement, en faisant en sorte que l'État intervienne davantage pour mettre en place des structures plus efficaces.
Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit que parmi les jeunes hommes et femmes politiques qui montent, et notamment à droite, je pense notamment à la ministre de la Justice et à la ministre de la Culture, la déesse, si j'ose dire, l'icône, c'est cet écrivain américain des années 50-60 qui s'appelle Ayn Rand, qui est la grande prêtresse du capitalisme absolu. Laurence Nardon, on voit là encore la proximité entre Israël et les États-Unis, y compris sur le plan économique, mais on voit aussi aux États-Unis même une communauté juive qui a une forte influence dans les milieux d'affaires, dans les milieux culturels, mais qui est au fond à la fois divisée et qui a tendance à s'éloigner de cet Israël qui ne correspond peut-être plus tout à fait à l'idée qu'on s'en fait outre-Atlantique.
Oui, surtout chez les jeunes. Les jeunes Américains juifs se sentent aujourd'hui assez éloignés d'Israël et tout bêtement, pour commencer, pour des raisons géographiques. Enfin, si vous voulez, en France, on peut prendre l'avion et aller prendre son petit déjeuner à Tel Aviv.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, l'océan Atlantique
mais
était là.
Certes. Oui, enfin, en même temps, les déplacements très faciles et très rapides sont assez récents dans l'histoire. Et en tout cas, pour l'Europe, ils sont advenus, alors que pour les États-Unis, c'est quand même beaucoup plus difficile d'aller facilement et rapidement en Israël. Et du coup, il y a une proximité, affective, peut-être même familiale, qui est moins facile à conserver.
Oui.
Oui, et aujourd'hui, la communauté juive aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas très pro Likoud, pas très pro Netanyahou. Ils sont, pour la simple raison que 65% des juifs aux États-Unis sont démocrates. Et donc, ne se sentent pas proches.
Vote pour le Parti démocrate.
Oui, Parti démocrate américain, bien entendu. Et du coup, ne se sentent pas proches de ce Premier ministre actuel en Israël.
Et on discutait tout à l'heure de l'influence croissante des partis religieux et donc de la religion en Israël même. Et on se souvient qu'au moment de ce terrible attentat dans une synagogue à Pittsburgh, c'était en octobre dernier, le grand rabbin d'Israël a refusé de prononcer le mot synagogue sous prétexte que c'était pas une synagogue ultra-orthodoxe. Enfin, je veux dire, on atteint quand même un niveau d'absurdité totale. Et on voit aussi que, comme pour que Trump, et c'est vrai aussi de Netanyahou, la droite évangélique est plus importante électoralement finalement un vote juif, et surtout aux États-Unis, bien sûr.
Oui, oui. Alors là, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que donc aux États-Unis, le soutien à Israël dans sa version Likoud n'est donc pas le fait tellement de la communauté juive, mais surtout le fait de l'immense minorité américaine évangélique, c'est-à-dire la droite chrétienne fondamentaliste, qui est
dont le vice-président américain, Mike Pence.
Oui, Mike Pence. Alors lui, c'est un catholique born again, qui est une catégorie quand même très particulière.
Reconverti.
Il n'est pas évangélique, il n'est pas protestant.
Oui.
Donc les juifs représentent 1,9% de la population américaine, selon le bureau du recensement, alors que ces évangéliques représentent 25% de la population américaine. Et eux sont sionistes pour des raisons théologiques. C'est-à-dire que pour eux, le grand retour, la fin des temps ne pourra s'accomplir que lorsque tous les juifs...
Armageddon.
Oui, enfin, c'est des millénaristes, donc c'est vraiment une théologie extrêmement complexe.
Mais Menahem Begin avait compris, donc il y a bien longtemps, l'intérêt politique de s'associer à cette... Action du protestantisme américain.
Ce sont eux le moteur. Ce sont eux le moteur du sionisme américain parce qu'ils veulent que tous les Juifs rentrent en Israël afin que les temps s'accomplissent selon le
et que les vrais chrétiens ressuscitent. De Saint Jean.
Oui, voilà. Exactement.
Denis Charbit, c'est exactement la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou a accueilli au mur des lamentations, il y a quelques jours, le nouveau président brésilien, Bolsonaro, qui est lui-même un évangélique. Et là aussi, on voit que Netanyahou joue sur cette alliance avec cette mouvance, non seulement sur le plan religieux, mais aussi, bien sûr, ce populisme autoritaire, nationaliste, que l'on voit désormais au pouvoir dans plusieurs pays.
Effectivement, je dirais que c'est cette recomposition idéologique-là qui rassure les uns mais inquiète les autres. C'est vrai d'ailleurs que dans la campagne électorale, même si le centre gauche et droit ne s'est pas montré très engagé sur le plan idéologique, en revanche, par exemple, sur la défense de la justice, sur la défense de l'état de droit, c'est vrai que c'est un thème qui est apparu, est un thème de campagne. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, Israël n'est plus isolé comme il était jusque-là sur la scène internationale. Il était appuyé par l'Europe, mais avec des réserves concernant les territoires. Et le paradoxe, et c'est vrai qu'il faut le souligner ce paradoxe, c'est que voilà que c'est quand Israël colonise, lorsqu'Israël ne considère plus la question palestinienne comme centrale, comme exigeant débat, comme exigeant d'être tranché, ben c'est là qu'Israël, loin d'être isolé sur la scène internationale, comme on pouvait le croire ou le redouter, eh bien arrive à cultiver des alliances, et on n'a pas parlé là des alliances avec les pays d'Europe du Visegrad, hein, la Hongrie, alors avec la Pologne c'est un peu plus compliqué, mais avec la Roumanie, etc. Et là, ça indique effectivement une recomposition qui n'est pas simplement israélienne, mais qui est une recomposition à l'échelle du monde démocratique entre les libéraux, et ça inclut le centre et la gauche, et ceux qu'on décrit comme des illibéraux, et là, effectivement, cette alliance-là, avec il y a également l'Inde, hein, qu'on pourrait également ajouter, hein, de Moody, voilà donc une internationale dans laquelle, effectivement, Israël fait figure de proue, puisque un des points fondamentaux, une des pierres de touche de cette recomposition idéologique internationale dans le monde démocratique, eh bien, c'est effectivement le soutien à Israël, mais pas à l'existence d'Israël, comme ça a toujours été le cas pour l'Union européenne, et son droit à la sécurité et à des frontières serait reconnu, mais le soutien à Israël tel qu'il est, précisément parce qu'il persiste à occuper la Cisjordanie et à multiplier des implantations.
Et on a même vu, Denis, je vous interromps, on a même vu Netanyahou et Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, s'attaquer de conserve à George Soros, donc ce financier et philanthrope américain, dénoncé comme étant juif.
Tout à fait.
Donc on atteint quand même c'est quand même assez bizarre.
Oui, on est même, je dirais, là sur le fil du rasoir, parce que bien entendu, à partir d'Israël, la critique de George Soros ne peut pas, il est exclu qu'on puisse s'attaquer à ses origines juives, là où au contraire, en Hongrie, on mettra en avant ces origines-là pour le déstabiliser et pour le mettre en cause. Donc vous voyez, on est sur le fil du rasoir. Je suis convaincu que Netanyahou n'ignore absolument pas qu'il a affaire à des leaders qui ont une tendance antisémite, un tropisme antisémite, mais il ferme les yeux là-dessus parce qu'il y gagne, et là c'est vrai que c'est un dilemme incroyable. Il préfère le soutien à Israël parce qu'il est Premier ministre d'Israël et que c'est la raison d'État qui gouverne ses intérêts, à une défense du peuple juif et du monde juif contre l'antisémitisme qui aurait dû et qui a été longtemps, je dirais, un des piliers de la politique étrangère d'Israël.
Alain Dikoff, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, donc rappelons que des élections législatives auront lieu mardi en Israël. Les Israéliens votent à la proportionnelle, ce qui veut dire qu'on ne connaîtra sans doute pas le nom du prochain Premier ministre avant plusieurs jours, parce qu'il y a des combinaisons de partis, etc. Néanmoins, les rapports de force, tels que vous les analysiez d'entrée de jeu, donnent quand même à Benjamin Netanyahou, il faut le rappeler, hein, il a quand même été Premier ministre pendant 13 ans, enfin de façon discontinue, mais 10 ans de façon continue, et donc il est sur le point, effectivement, comme le rappelait Eric Scholl, de battre le record du père fondateur, David Ben-Gourion, mais à la tête d'un pays très très différent de celui qu'imaginaient les pères fondateurs.
Ah ça, il n'y a aucun doute. Je crois qu'en effet, et même je dirais très différent de l'Israël que j'ai pu connaître même au début des années 80. C'est vraiment un pays extrêmement différent qui a beaucoup changé évidemment depuis sa création en 1948. Alors je dirais que ces élections en sont aussi l'illustration, parce que dans le fond, ce qu'on voit, c'est que, à l'exception du Likoud, en fait, le champ politique a été complètement recomposé au cours des 15 dernières années. C'est-à-dire que, alors certes, il y a encore le Parti travailliste, mais vu les 8 ou 9 sièges que les sondages lui promettent, il ne sera plus que l'ombre de ce qu'il a été dans les années 50, 60 et même encore au début des années 80. Alors le Likoud, lui, tient bon. C'est vrai que c'est le parti, disons, historique de la droite, hein, qui reste ferme. Mais sinon, autour, c'est vrai qu'on a vu tout un tas de nouveaux partis apparaître, disparaître aussi parfois. Et grosso modo, je crois que ça, c'est quand même assez indicatif qu'en effet, on a une scène politique qui s'est transformée en profondeur.
Et on voit aussi un Netanyahou qui a construit, en fait, avec un talent considérable, mais qui a construit sa stratégie sur le refus de toute solution. C'est-à-dire, il est anti-solution. Donc, on ne va pas résoudre la question palestinienne, on ne va pas résoudre véritablement le problème de Gaza et du Hamas, on ne va pas résoudre la confrontation avec l'Iran, qui est évidemment la menace permanente et d'ailleurs invoquée comme telle. Donc c'est du court terme sans arrêt reconduit.
Pas uniquement, parce que je crois que bien sûr il y a cet immobilisme qui est absolument indéniable chez lui. Il préfère gérer la situation. C'est plus confortable politiquement que d'essayer de trouver des solutions qui pourraient créer évidemment des tensions dans sa coalition. Mais je dirais, là où on n'est pas dans du court terme, c'est quand même ce que nous avons évoqué, il me semble, et qui sert un peu de fil rouge à toute notre émission, c'est quand même la reconfiguration idéologique. Et ça, c'est quand même du long terme. Là, il y a quelque chose qui a vraiment changé, et je crois qu'il faudra vraiment aborder Israël avec d'autres lunettes si on veut vraiment comprendre l'évolution de ce pays.
Merci mille fois Alain Dikoff. Je rappelle que vous avez publié chez Armand Collin « Le conflit israélo-palestinien » en 2017. Vous avez dirigé avec Philippe Portier « L'enjeu mondial, religion et politique » aux presses de Sciences Po. Merci à Eva Ilouz qui a dirigé « Les marchandises émotionnelles » aux éditions Premier Parallèle. Laurence Lardon, « Les États-Unis de Trump en 100 questions ». Très bon ouvrage chez Talendier. Je rappelle aussi que l'IFRI va célébrer à la Sorbonne mercredi son 40e anniversaire. Donc pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est ouvert au public. Il faut s'inscrire, bien sûr. Merci à Denis Charbit. Vous avez publié « Israël et ses paradoxes » au Cavalier Bleu l'année dernière. Merci à Jacques Bendelac qui a publié « Israël, mode d'emploi » aux éditions Plein Jour en 2018. Merci et bravo à Eric Scholl, Courrier International, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Guilain Meige. Meryl Moneghetti et Marion Barsac ont préparé cette émission comme chaque semaine et mettront en ligne toute la bibliographie nécessaire sur notre site. Et bien sûr, vous pouvez podcaster notre émission Affaires étrangères ou l'écouter en ligne. Et dans un instant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end, à samedi prochain.